les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur REC 103.7 et les chemins de traverse pour cette émission que vous connaissez. Tous les samedis matins, donc un rendez-vous différent. Aujourd'hui, je reçois Hugues Maillet, qui est maire de Saint-Savin, et Jean-Luc Dorchy, qui lui est président de l'EPCC de Saint-Savin.
Directeur.
Vous êtes en tout cas de l'EPCC de Saint-Savin, et monsieur le maire, donc de Saint-Savin.
Tout à fait, c'est ça.
Comment allez-vous ?
Ça va bien, merci, avec le beau temps ce matin dans notre région, donc c'est excellent.
Exactement, il faut en profiter. Vous êtes venu en covoiturage, peut-être pas, non ?
Non, parce que je pars ailleurs après.
Ah d'accord, c'est très bien, vous avez raison. On va parler de Saint-Savin aujourd'hui. Saint-Savin, c'est une abbaye, forcément, et puis c'est autre chose aussi, hein. C'est une commune. Combien d'habitants à Saint-Savin ?
Alors, on perd malheureusement des habitants tous les ans. 811 habitants aujourd'hui, donc ouais. Une commune en dessous de 1000 habitants. À peu près 25% des personnes ont plus de 70 ans, donc c'est quand même très vieillissant.
Ouais.
Par contre, c'est une commune très dynamique encore, hein, puisqu'on a un rôle de centralité et on a beaucoup de commerces actifs. Entre autres pour une commune de 800 habitants.
Exactement. Ça me rappelle, tiens, qu'hier, on était à Saint-Valentin et j'en ai profité pour acheter des fleurs là-bas à Pimprenelle, c'est ça, non ?
Exactement, c'est un nouveau magasin, donc vous avez très bon choix.
Exactement.
Sur la place de l'abbaye, entre autres.
Exactement, ouais. Oui. Une belle commune, Saint-Savin, vous le disiez, avec un peu plus de 800 habitants. Par rapport à Saint-Germain, c'est quoi ? C'est un peu plus petit ?
Alors,
c'est la question qui fâche, peut-être. Ouais,
hein, non, du tout. Alors, c'est vrai que Saint-Germain, il faut bien l'expliquer aux gens qui nous écoutent. Là. C'est juste la rivière qui nous sépare, on a la rivière La Gartempe. Mais c'est un peu plus d'habitants que nous, mais moins de 1000 habitants également pour eux.
Exactement. Alors on va parler des gens, on va apprendre à vous connaître avant de parler un peu des communes. Monsieur le maire, vous êtes maire depuis 2020.
Alors oui, suite au décès du maire qui avait été réélu, donc j'étais le premier adjoint le mandat précédent. Et donc, il voulait que je prenne sa place pour tout vous dire, le mandat de 2020. Et je lui ai suggéré d'être son premier adjoint encore pour le projet du logis, entre autres, avec le restaurant,
oui,
qui n'est pas terminé. Mmh. Et malheureusement, il est décédé au 15 août, donc je me retrouve maire. Et je voulais m'arrêter en cours de route pour tout vous dire. Et là, maintenant, je pense que l'arrêt sera en mars prochain.
D'accord, là, c'était la question suivante, à savoir si vous aviez
déjà commencé. Mars prochain, 2026.
2026, c'est ça. C'était une de mes questions, savoir si vous aviez déjà l'intention de vous représenter. Mais a priori, voilà, on n'a pas de souci aujourd'hui. Vous allez pouvoir parler tranquillement, librement, voilà, sans souci. Adjoint depuis combien de temps ? Enfin, premier adjoint, donc forcément depuis 2020. Et
2014.
2014, donc une belle expérience sur Saint-Savin. Vous étiez, avant cela, vous étiez dans la vie professionnelle ?
Vie professionnelle, moi j'étais cadre supérieur chez Orange et j'étais à l'état-major à Paris, entre autres, hein, à Montrouge. Mm-hmm. Mais je ne connaissais pas Saint-Savin, pour tout vous dire, avant. Même si j'étais de Poitiers, hein, j'ai fait toute ma carrière très longue sur Poitiers, l'armée et autres. Mais un deuxième mariage m'a ramené à Saint-Savin et vous voyez, je me retrouve maire.
C'est vrai que Saint-Savin, c'est une commune un peu à l'écart, on va dire, en direction de l'Indre. On a l'impression quelquefois que les gens de l'Indre connaissent mieux Saint-Savin que les habitants de la Vienne. Parce que, alors moi, j'y passe tous les jours, hein, puisque je vais travailler sur le Blanc. Mais c'est vrai que c'est une commune un peu à part. On la connaît pour son abbaye, dont on va parler dans quelques instants. Mais à côté, on ignore beaucoup de choses de Saint-Savin.
Alors, Saint-Savin, c'est un point central, entre autres, des communes, effectivement, comme Chauvigny, Le Blanc, Montmorillon, je posais de l'autre côté, effectivement, d'un point central. On est surtout sur un axe routier de la grande circulation. Mm-hmm. C'est une route départementale de Saint-Quentin, mais toujours classée à grande circulation. 4000 véhicules jour.
Combien de camions ? Énorme.
C'est énorme. Beaucoup de poids lourds, beaucoup de transports exceptionnels, parce que c'est une route de passage. Ce qui, d'ailleurs, nous interdit, entre guillemets, beaucoup de restrictions de circulation. Hein, comme des dodanes et autres, que les gens voudraient bien qu'on installe, parce que les restrictions de vitesse ne sont pas toujours respectées, mais sauf que là, c'est très compliqué avec le passage qu'il y a aujourd'hui.
Exactement. Une commune qui est en même temps restée assez jeune, on va le dire. Il y a un collège ?
Alors, on a un collège, effectivement. On a une école regroupée avec la commune voisine, justement Saint-Germain, dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est un pôle éducatif aujourd'hui. 130 quelques élèves, 6 classes, 2 maternelles et 4 classes élémentaires. On a piscine, on a 7 restaurants, 3 hôtels. Enfin, voilà, pour une commune de 800 habitants, on peut faire quelques comparaisons. comparaison, c'est pas mal.
C'est pas mal pour les touristes en tout cas, puis pour les habitants oui. aussi, bien sûr. Voilà. Le nouveau restaurant qui a été monté, c'était le Césarus.
Le Césarus, c'est Cérasus. Ça, c'est dans le logis de l'abbé, donc effectivement, qui est un bâtiment communal. Je répète pour les gens qui ne le savent pas, mais la commune est propriétaire de l'abbaye, des trois bâtiments, le bâtiment commandeuel, l'église et ce bâtiment-là. D'accord. Sauf qu'on a fait un bail avec l'exploitant qui, lui, est chargé de faire l'hôtel et nous avions fait la rénovation pour le restaurant.
D'accord, donc la commune est propriétaire de l'abbaye, on l'a dit. L'abbaye, la gestion, c'est le PCC avec notre directeur Jean-Luc Dorfy.
Oui, donc, c'est ça, tout à fait. Donc l'établissement public est chargé de valoriser, de faire connaître, d'exploiter, d'accueillir le plus possible de visiteurs pour leur permettre d'apprécier au mieux, parce que c'est vrai que c'est une situation un peu compliquée, c'est-à-dire que le PCC gère le site, mais le joyau est en accès libre, puisque c'est l'église paroissiale. En même temps, quand on entre dans cette église et qu'on découvre ces peintures, donc, qui, je rappelle, sont le plus grand cycle de peintures romanes aujourd'hui en Europe, hein, donc entre l'an 1000 et le début du 12e siècle, c'est quand même très complexe. Et si on n'est pas accompagné par des guides, par une tablette, par différents moyens de médiation, et notre travail c'est la médiation auprès de tous les publics, tous les visiteurs, eh bien c'est quand même difficile de comprendre ce qui se passe dans ces voûtes et sur ces murs. Donc c'est notre travail, c'est d'accompagner les visiteurs, de leur faire prendre vraiment conscience de ce que c'est, et puis de leur apporter du plaisir au travers d'un certain nombre des dispositifs d'action culturelle, touristique, bien évidemment.
Vous êtes arrivé depuis combien de temps à la tête de le PCC ?
Presque un an, puisque c'était le 1er février 2024.
Oui, j'avais rencontré l'année dernière, il était venu dans le studio, c'est Antonin, je ne sais pas s'il est toujours avec vous, il est chargé de communication ?
Alors non, il nous a quittés, il est parti vers d'autres horizons.
D'accord, oui. Il était venu nous présenter un peu l'abbaye, il avait l'air de bien connaître le secteur, connaître l'abbaye la veille des fresques aussi, hein. On en parlera tout à l'heure, on détaillera un peu tout cela. Vous êtes arrivé, vous étiez à quel endroit auparavant, avant de venir nous rejoindre à Saint-Savin ?
Bah, je n'étais pas très loin, puisque j'étais à Poitiers, donc je travaillais pour la ville de Poitiers et la communauté urbaine de Grand Poitiers. Je dirigeais l'école des Beaux-Arts, qui est en fait une école d'art pour les amateurs, adultes et enfants, et puis j'ai monté ce projet du miroir, cette salle d'exposition sur la place Leclerc, dont on ne parlera pas trop, puisque on ne sait pas trop si elle va perdurer, mais en tout cas, j'avais monté ce projet sur plusieurs années.
Voilà. D'accord, oui. À l'époque, c'est Alain Claes qui était le maire de...
C'était à cette époque-là, oui, tout à fait, qui avait souhaité développer ce projet.
Ça a changé depuis, d'ailleurs. Alain Claes, que j'ai eu la semaine dernière, hein, je crois, au téléphone, on l'aura prochainement dans l'émission, il viendra de faire un tour, nous parler un peu de randonnée, puisqu'on est aussi une émission de randonnée pour parler de randonnée. On en parlera aussi de randonnée autour de Saint-Savin tout à l'heure, avec notamment la Vigne aux Moines, je crois, hein, pas mal de circuits.
Chemin de randonnée de la Vigne aux Moines de la commune Vienne-et-Gartan.
Exactement, oui, pas mal de choses, pas mal de patrimoine aussi, hein, sur Saint-Savin. On parle de l'abbaye classée au patrimoine mondial. Au niveau de la fréquentation, tiens, de l'abbaye, on est toujours étonné parce que quand on regarde, l'abbaye, c'est quoi ? C'est 20 000 personnes, 20 000, 30 000 personnes par an ?
L'année dernière, donc en 2024, un peu plus de 23 000 visiteurs payants.
Payants, tout à fait.
Parce que c'est ça la complexité. Vous avez aussi tous ceux qui pénètrent dans l'église sans passer par la billetterie.
Exactement. On a le même souci à Paris avec Notre-Dame, qui bat des records aujourd'hui. Oui. On en est loin.
Donc le message qu'il faut faire passer, c'est en passant par la billetterie, vous aurez beaucoup plus de plaisir et vous comprendrez beaucoup plus et beaucoup mieux ces images qui sont quand même extrêmement complexes si on n'est pas un spécialiste de la Bible averti.
Exactement. J'avoue humblement que moi j'ai visité comme tout le monde, enfin comme beaucoup en tout cas, l'abbaye sans passer justement par la partie billetterie. Et c'est vrai que cette affaire, à mon avis, c'est quelque chose pour la connaissance des enfants. D'ailleurs, le collège vient régulièrement à l'abbaye.
Alors, on les accueille un petit peu, mais je pense que ça fait partie de la marge de progression aussi. Donc, c'est un sujet, parce qu'il y en a beaucoup, sur lequel je vais me pencher, disons, dans la deuxième partie de l'année, pour renforcer notre accueil des scolaires sur le territoire et apporter une vraie offre pédagogique, même si on accueille des groupes scolaires, hein, mais autour de un peu plus de 1000 personnes sur l'année dernière. Mais il faut développer encore cette offre auprès des établissements de l'ensemble du territoire.
D'accord. Beaucoup de choses à voir, notamment au niveau de l'abbaye et au niveau du patrimoine en général. Il y a un lien entre vous deux concernant justement tout ce patrimoine. Quand vous allez visiter l'abbaye, il y a possibilité d'aller voir donc la la fabrique du Point du Jour, je pense notamment. Il y a des circuits qui sont prévus par rapport à cela ?
Moi, je suis arrivé l'année dernière. Donc...
Oui, bien sûr, je suis rendu.
Alors, je sais qu'il y a des visites qui sont proposées par le service Pays d'Art et d'Histoire de la CCVG, de la communauté de communes, qui viennent parfois à Saint-Savin. Hein. C'est vrai que ce que l'on doit faire aujourd'hui, on a un chargé de mission qui est chargé de faire ça notamment, c'est de mieux se coordonner, de se rencontrer les différentes structures qui a patrimoniales qui interviennent sur le territoire de la communauté de communes et même au-delà, hein, puisqu'il y a des projets aussi vers le nord avec Grand Châtellerault et Grand Poitiers, avec Chauvigny. Et donc, que chacun sache ce qu'il fait et puis qu'on ait un agenda partagé et qu'on puisse mutualiser les choses.
D'accord. Au niveau de la mairie, justement, on en parlait, beaucoup de choses. Je parlais tout à l'heure du collège de Saint-Savin. Aujourd'hui, c'est quoi, 160, 170 élèves ?
Oui, c'est le problème aujourd'hui, on est dans une situation démographique qui fait que les effectifs baissent, effectivement. Mais c'était prévisible.
Oui, tout à fait, bien sûr.
On connaît les courbes. Hein. Par contre, c'est un collège qui fonctionne très bien, qui est très actif. Je crois que le département nous soutient pour conserver ce collège, entre autres. Mmh. Il est très important. On a intégré effectivement des communes qui étaient sur Chauvigny, par exemple.
Oui, l'Appui, par exemple,
voilà,
qui fait partie
voilà. On a réintégré pour pouvoir avoir cette volumétrie, ce flux d'élèves, effectivement, qui permettent de garder un collège.
Oui, c'est ça, un collège familial. Hein, mon fils est là-bas encore pour cette année, donc... Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, vu le nombre d'élèves, à l'avenir, savoir ce qui peut arriver. Donc pour l'instant, il n'est pas question, en tout cas, de le fermer. Il y a peu de...
Alors, si c'était le cas, je ne suis pas visé.
Oui, voilà.
J'aimerais bien.
Oui, ce serait pas mal.
Donc, effectivement. Mais on sait qu'on est vraiment dans une baisse, hein, effectivement, qui est normale. Et peut-être après qu'il y aura le rebond. Mais malheureusement, hein, lorsqu'on suit les courbes...
C'est ça, vous êtes le deuxième ou troisième le moins fréquenté, on va dire, de la Vienne, voilà, avec Husson du Poitou, je crois, et puis...
Il y a un suivi, mais c'est vrai que c'est une préoccupation.
Tout à fait, oui. Bah, écoutez, on va se faire une petite pause musicale. Tiens, on revient tout de suite après. On parlera un peu du patrimoine donc de Saint-Savin et des environs. On va s'écouter Magali Vahey. Magali qui sera très prochainement au téléphone avec nous pour nous parler de sa carrière. Magali Vahey, vous la connaissez, c'était la gagnante de la Starac 5. Alors, la Starac 5, j'en parlais ce matin à mon fils de 14 ans. Il me dit, mais c'est quoi? Je ne connais pas, c'est normal. C'était en 2006 ou 2007. Voilà, on se retrouve tout de suite après.
Je veux respirer, tout laisser derrière. Il faut rayonner, loin de nos galères. Oublier ses rancœurs et se sentir bien. Oh, de mille couleurs. Partager sans fin et faire son chemin sans regarder derrière, tout droit sans prendre un chemin de travers. Il faut s'enjailler de ce jeu qu'on joue. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Ne plus hésiter à devenir fou. Et pas contre nous. Eh oh, eh oh. Ça fait eh oh, eh oh. Nos sourires enjoués et nos joies partout. Eh oh, eh oh. Ça fait eh oh, eh oh. Sois déterminé et laisse tout derrière. Tu peux respirer loin de leurs prières. De la hauteur et respire à fond. Donne avec ton cœur et prends ce qui est bon. Et suis ton chemin sans chercher de signes. C'est entre tes mains que tout se décide. Oh, il faut s'enjailler de ce jeu qu'on joue. Eh oh, eh oh. Eh oh, eh oh. Ne plus hésiter à devenir fou. Eh oh, eh oh. Eh oh, eh oh. Il faut pas sentir bien, loin de tous les bruits, de ces gens malsains qui bavent sur ta vie. Il faut s'enjailler de ce jeu qu'on joue. Ne plus hésiter à devenir fou. Que c'est bon d'être fou. Il faut partager et pas contre nous. Eh oh, ça fait eh oh, eh oh. Nos sourires enjoués et nos joies partout. Eh oh, eh oh. Ça fait eh oh, eh oh. Il faut devenir fou.
C'était Magali Vaé, donc, et Devenir fou. Nous sommes toujours sur REC 103.7 et Les Chemins de Traverse en compagnie de Hugues Maillet, qui est le maire de Saint-Savin, et Jean-Luc Dorchy, qui lui est directeur de l'EPCC, donc l'organisme qui gère l'abbaye. On parle justement de l'abbaye, l'histoire un peu de cette abbaye. C'est
une histoire assez terrible, d'ailleurs, qu'on va... essayer de raconter, de présenter dans un nouvel aménagement du réfectoire, de l'ancien réfectoire des moines. Donc l'abbaye, elle est fondée dans le contexte de ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne, enfin une période au moment du règne de Charlemagne, donc 9e siècle, également dans le cadre de la réforme de l'ordre bénédictin. Elle va devenir sa grande période, je dirais, son grand rayonnement, c'est entre l'an 1000, quand une certaine Aumaude, comtesse de Poitou, va doter cette communauté religieuse d'une somme considérable qui va permettre de construire cette église tout à fait exceptionnelle pour l'art roman, puisqu'elle est très haute et très grande, beaucoup plus haute et plus grande que la plupart des églises de cette époque-là. Puis, début de la construction, première moitié de l'an 1000. Et après ce grand cycle de peinture, ce choix de c'est un lieu d'architecture et de peinture, hein, Saint-Savin, c'est une harmonie parfaite entre l'architecture et la peinture. À partir de la guerre de 100 ans, ça va se gâter. Période difficile, pillage, etc., guerre de religion. Et à la fin du XVIe siècle, le prévôt des marchands de Montmorillon va démanteler pierre par pierre tous les bâtiments en dehors de l'abbatiale, heureusement, les vendre. Il y a des témoignages, hein, qui parlent de ça. Il y aura une reconstruction au XVIIe siècle, donc c'est le bâtiment conventuel actuel. Le projet aurait dû être beaucoup plus important, mais à ce moment-là, l'argent n'est plus dans le Poitou, il est à Paris, à l'époque de Richelieu, voilà. Et donc le projet ne se terminera jamais. Et le dernier épisode intéressant, c'est l'achat par Félix Léon Hédoux, inventeur de l'ascenseur hydraulique, sur lequel, enfin, dont on a beaucoup parlé dans une exposition qui avait été présentée l'année dernière, audacieux du XIXe siècle, qui va acheter le logis de l'abbé, l'actuel hôtel-restaurant, enfin restaurant pour l'instant, et qui va y construire cette tour un peu bizarre, qui surprend quand on arrive, de style néo-gothique byzantin,
cette tour crénelée, oui,
pour y installer son ascenseur. C'est vraiment, l'idée c'était d'y mettre, donc il y avait une cuve, et puis son système d'ascenseur. Alors l'ascenseur n'est plus là, il faut aussi porter à son crédit le fait de l'installation de l'électricité gratuite dans la commune, une des premières communes à avoir bénéficié de ça grâce à un barrage qu'il a construit sur la Gartempe.
Tout à fait. Oui. Quelle idée d'ailleurs d'aller faire une abbaye si proche de la Gartempe, on le voit encore aujourd'hui, on peut se poser la question quand on voit les inondations. Ah
ben, c'est l'eau, c'est la culture de l'eau des bénédictins, la pisciculture, beaucoup d'abbayes bénédictines sont situées au bord de l'eau, avec bien sûr les risques de submersion, d'inondation, mais l'eau était très importante dans la culture bénédictine.
D'accord. Donc cette abbaye qui est construite ici, au niveau du patrimoine, aujourd'hui elle est inscrite, au patrimoine mondial. Alors je confonds souvent entre classement et inscription. Ouais. Je crois que c'est Antonin qui m'avait dit la dernière fois qu'un classement c'était différent, que c'était une inscription.
Alors elle est déjà classée sur la première liste des monuments historiques en 1842.
De Prosper Mérimée.
De Prosper Mérimée. Et ensuite, en 1983, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le seul bien dans la Vienne qui soit inscrit au patrimoine mondial.
Puisque Saint-Hilaire à Poitiers était inscrite au départ et ça a été supprimé, je crois.
Alors là, je ne connais pas l'histoire en détail, mais je sais qu'on est le seul.
Voilà, Saint-Hilaire, c'est le chemin de Saint-Jacques qui est inscrit.
Alors après, il y a effectivement des inscriptions immatérielles en Nouvelle-Aquitaine, Donc, il y a 15 sites UNESCO, mais vous avez, par exemple, le Saint-Émilion, la ville de Bordeaux, etc.
Exactement. On parlait justement tout à l'heure de la fréquentation, 20-30 000 personnes. Hein. La moyenne basse des sites inscrits au patrimoine mondial, c'est environ 200 000. Ah, ouais. On en est loin, je pense. Alors, vous arrivez juste, vous allez me dire, il y a de l'espoir.
Mais là, c'est vrai que vous mettez une grosse pression, là, 200 000.
Ça fait une marge de progression.
Oui, une belle marge de progression. On peut la faire. En fait, je suis certain qu'on peut y arriver. Si on considère Chauvigny, si on considère Montmorillon, si on considère Angle sur Anglin, on doit arriver à un cumul de 100 000 personnes à peu près. Chauvigny, qui est le deuxième site de la Vienne en fréquentation touristique. C'est vrai que si on arrivait à associer ces trois communautés de communes, puisque c'est trois communautés de communes qui interviennent, on arriverait certainement à faire quelque chose de beaucoup mieux.
Eh bien, on y travaille. On travaille à cette idée de remettre en avant cette notion de triangle d'or, qui associe donc Chauvigny, Angle sur l'Anglin et Saint-Savin. Avec les différents offices de tourisme, les municipalités. Oui, je pense qu'effectivement, alors à la fois, c'est vrai que l'abbaye de Saint-Savin a été un peu oubliée peut-être dans les instances. Le changement de région aussi n'a pas forcément été une chose positive.
Hein, parce que, oui.
Ça, c'est très loin, Bordeaux, quand même.
Oui, exactement. Oui.
Voilà. Et puis, je pense qu'il faut aujourd'hui... enrichir, diversifier l'offre aux visiteurs, qu'elle soit plus importante. Donc, c'est le principe de réaménager des espaces. Et puis, il faut qu'on fasse un gros travail sur la communication, sur ce qu'on appelle le marketing touristique, qu'on soit beaucoup plus présent sur toutes les plateformes touristiques, les tour opérateurs, etc. Donc ça, on a missionné une personne spécifiquement pour ça, qui est Isabelle Soulard, qui est quelqu'un qui est assez connu dans la région, qui a un gros réseau, qui connaît très très bien le monde du tourisme, qui a mis en tourisme un certain nombre de territoires, et donc qui nous accompagne sous forme de mission pour booster tout ça, parce que c'est très important.
Exactement. Isabelle, qui a d'ailleurs une page sur Facebook, hein,
vous avez régulière,
vous tapez,
voilà,
tous les week-ends, j'allais dire en vadrouille peut-être,
oui,
pas, mais en tout cas.
Elle fait découvrir tous les sites, elle fait un travail exceptionnel.
Exactement, que ce soit ça ou en histoire, puisqu'elle est venue à différentes entreprises ici nous parler de l'histoire des femmes à travers le Poitou, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Au niveau du patrimoine donc, local, on l'a dit, l'abbaye de Saint-Savin, on a parlé rapidement de la fabrique du Point du Jour, c'est un monument privé. Bâtiment privé, en tout cas.
Alors, c'est un bâtiment privé, oui, c'est monsieur. C'est un nouveau propriétaire, hein, qui est tombé complètement amoureux en été de cette fabrique. Ouais. Alors, il faut peut-être rappeler que les fabriques, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Hein, c'est un lieu d'ornement paysager, normalement, donc avec des cascades, des grottes, des passages souterrains. Bon, lui, il a pu refaire ce petit château médiéval en été, qui est intéressant, où il se produit aujourd'hui des concerts. Alors, assez privé, hein,
oui, bien sûr,
c'est très limité en nombre. Il ouvre donc de temps en temps au public. C'était son envie lorsqu'il a rénové. Hein, il avait fait appel à des fonds privés pour cette rénovation. Et aujourd'hui, il s'investit beaucoup. Enfin, moi, c'est une personne importante dans la commune par rapport à ce point du jour.
Et c'est un lieu d'hébergement. Il faut le dire.
Tout à fait, chambre d'hôte.
C'est ça. Donc, c'est des gens intéressants et qui effectivement, ont remis en avant effectivement des personnages comme Monsieur Duchesne, qui est une personne importante pour la commune, puisque c'est lui qui a fait le plan de la mairie.
Exactement.
Qui a fait l'entourage du monument aux morts, entre autres. Voilà, donc je me suis permis de baptiser ce monument effectivement à son nom, pour l'honorer, où il y avait entre autres quelqu'un de la famille que Monsieur Jacot avait récupéré, qui était présent, Monique, et donc une personne âgée, mais très intéressante, parce que pour elle, c'était son château de poupée, quoi, de rêve, mais grandeur nature. Quoi.
Oui, c'est ça, on a des particuliers qui se permettent ce genre de choses, et c'est très bien, parce qu'on ne peut même pas dire que ce soit pour l'argent, parce que là...
C'est un mini-parc début de Chaumont.
C'est ça, exactement. Exactement.
C'est le coup de cœur, quoi. C'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur, et effectivement, qui met tous les éléments aujourd'hui pour le faire vivre.
C'est ça, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits comme ça dans Saint-Savin à redécouvrir.
Il y a le pont, quand même.
Oui, alors,
on a le vieux pont aussi, bien sûr.
Oui, parce que c'est un pont classé qui nous pose quelques soucis aujourd'hui. Il faut savoir que ce pont en particularité, c'est que lorsque le pont neuf a été construit, il y a eu une rétrocession aux deux communes, Saint-Savin, Saint-Germain.
Ouais.
Donc ce pont classé aujourd'hui appartient, qu'on appelle le vieux pont, appartient aux deux communes.
D'accord.
Et donc deux communes de 800 habitants pour rénover, si je vous donne le chiffre aujourd'hui, c'est 1 500 000 qu'il faudrait trouver. Voilà.
Exactement, oui.
C'est pas simple.
Alors, c'est vrai qu'il y a des entreprises, quand même, qui pourraient peut-être participer. Au niveau entreprise, justement, on les retrouve surtout sur ce Saint-Germain.
Plutôt, le côté industriel, c'est plutôt Saint-Germain, et le côté commerce et la centralité, plutôt Saint-Savin.
La fusion, peut-être un jour, non ?
Alors, c'était mon espoir. Ouais. Je crois que je partirai avant que ça soit réalisé, mais je crois que, sans trop réfléchir, on voit bien tous les avantages, effectivement, d'un rapprochement. Pas que Saint-Germain, d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas oublier de parler d'Antigny.
Oui, tout à fait. Ouais.
La vigne aux moines, le village de vigne aux moines est dans le bourg de Saint-Savin, à 150 mètres de l'abbaye. Personne ne le sait, mais lorsqu'on arrive dans le virage de Saint-Savin, on est Antigny, on n'est pas Saint-Savin.
Oui, donc oui.
Donc je pense que c'est trois communes. Et en même temps, c'est un problème aussi, comment je vais dire, d'affichage. Une commune qui ferait 1500, 2000 habitants, c'est plus intéressant qu'une commune de 800 habitants au point de vue gestion.
C'est plus.
Et puis également projet, je pense qu'on peut gérer des projets différents, dispersés effectivement sur chacune des communes. C'est idiot d'avoir chacun sa salle des fêtes. Voilà, je veux dire, il y en a une très belle à Saint-Germain, je ne vois pas pourquoi Saint-Savin en ferait une. Quoi,
exactement. On parlait de concerts au Point du Jour, à la Fabrique du Point du Jour, à l'abbaye, vous en avez quelques-uns. Il y en avait eu un il y a quelques temps avec le Chœur d'Hommes du Haut-Poitou.
Alors, oui, tout à fait. Donc, alors là, on est aussi sur un projet en gestation, je dirais. On s'est rendu compte, notamment au travers d'échanges avec des universitaires, des spécialistes de la architecture du XIe siècle, que finalement, le lieu où était diffusé le chant, surtout, puisque pas d'orgue au XIe siècle, chez les moines bénédictins, c'est ce qu'on appelle la tribune, c'est-à-dire cet étage qui est au-dessus du porche. Donc, on a fait un certain nombre d'essais. Et on a vu que le son était vraiment excellent quand il était diffusé depuis cet endroit, qui se diffusait de manière absolument égale dans tout l'ensemble du bâtiment. Que vous soyez tout au bout dans le chœur ou à côté, c'est le même niveau sonore. Donc là, on travaille vraiment à valoriser ça. Alors ça implique aussi des changements un peu dans l'organisation du concert, parce qu'on n'est pas forcément en face des musiciens. Et disons que tous les concerts qui seront estampillés au PCC, parce qu'après, d'autres personnes font des concerts qui ne sont pas organisés par le PCC.
Hein. Oui, tout à fait.
Il suffit de demander. Vous avez l'association Gartempe 206, oui. Donc, qui fait des concerts. Il y avait eu Josquin Després de Poitiers. Enfin, voilà. Et là, on a travaillé, par contre, avec la chorale de Saint-Pierre de Maillé, la Vichante, qui avait invité un chœur de sainte, notamment, qui a chanté dans la tribune, et tout le monde, unanimement, a trouvé que le son était vraiment exceptionnel. Donc, du point de vue de l'EPCC, donc nous, on prévoit un concert le 15 juin pour remettre en avant le réfectoire qui va être réouvrir au 1er mars hein, avec ses nouveaux aménagements, mais avec un concert de musique baroque contemporaine de la construction de ce bâtiment. Et donc là, on va avoir des choses justement avec la tribune, et c'est ça que nous voulons développer.
D'accord, aujourd'hui. Oui.
Retrouver l'essence, les origines véritablement du bâtiment, du monument qui est l'abbatiale.
C'est ça, avec ces magnifiques fresques. Des fresques qui ont été peintes d'ailleurs par des peintres ou par les moines à l'origine. C'est une commande ?
Oui, ce sont des peintres, avec bien sûr les moines qui définissaient les programmes iconographiques, les sujets, qui étaient des gens extrêmement érudits. Hein. C'était une abbaye où les fidèles ne pénétraient pas. Hein. Enfin, c'était une église où les fidèles ne pénétraient pas. Il y avait une église paroissiale dans le village de Saint-Savin. En gros, la commune était telle qu'elle est aujourd'hui, était partagée en deux. D'un côté de la route nationale, c'était l'abbaye, qui était sans doute beaucoup plus importante. On sait qu'il y avait une enceinte fortifiée qui avait été notamment commanditée par Charlemagne. Alors, après, on n'a pas grand-chose, puisque les archives ont été détruites pendant les guerres de religion, en l'occurrence. Mais on sait comment était faite une abbaye bénédictine. Elles étaient toutes faites sur le même modèle. Et donc, il y avait effectivement... c'était un lieu... j'ai perdu la question. Mais... Alors oui, elles ont été peintes par des peintres, avec bien sûr des préconisations très précises de la part des moines qui souhaitaient telle ou telle scène de manière à enrichir leurs réflexions. Hein. Et donc la spécificité à Saint-Savin aussi, c'est que dans la voûte, il est très rare d'avoir un ensemble aussi important sur l'Ancien Testament. Sur la Bible, parce que là, vraiment, c'est considérable, avec tout un ensemble de cycles, des images exceptionnelles. Donc, c'est d'ailleurs l'inscription à l'UNESCO. Hein. Les critères, c'est la qualité extrême des images, la qualité extrême des récits. Et ça, c'est les moines dans leur dialogue avec les artistes, avec les peintres, et puis l'universalité de ces récits qui nous parlent encore aujourd'hui, parce que certes, ils ont été créés, ces images ont été créées dans un contexte médiéval, religieux, chrétien, mais vous avez par exemple l'Arche de Noé, dont on va parler bientôt, vous l'avez dans toutes les cultures dans le monde entier. Donc c'est aussi cette dimension universelle.
On a la Tour de Babel aussi, je crois.
La Tour de Babel, qui est une des scènes très impressionnantes aussi, qui est d'ailleurs un chantier de construction au Moyen-Âge, hein, c'est, qui nous donne aussi des indications. Beaucoup, beaucoup de scènes nous donnent des indications sur la vie aussi contemporaine de la réalisation.
Alors c'est vrai qu'on est étonné hein, de la préservation de ces fresques. Alors je suppose qu'elles ont été restaurées depuis, mais elles ont été sauvées surtout par Prosper Mérimée. Elles avaient été à une époque cachées, dissimulées.
Dijonais, à l'époque classique où on ne s'intéressait plus au Moyen-Âge, ça plaisait plus.
Ah oui, c'était même pas une idée de préservation.
Et après, Mérimée, avec le retour de l'intérêt pour le Moyen-Âge, avec l'époque romantique, hein, on peut citer Notre-Dame de Paris, hein, Victor Hugo. Hein, c'est vraiment... Donc Mérimée, à la fois donc deuxième inspecteur des monuments historiques, quand la charge est créée sous Louis-Philippe, arrive à Saint-Savin en 1835, il comprend tout de suite l'importance du lieu. Et les restaurations ne vont pas cesser de 1840 à 2015, la dernière campagne. D'ailleurs, dans le réfectoire, on détaille les différentes campagnes au 19e siècle et pendant tout le 20e siècle. La voûte, par exemple, elle a été restaurée deux fois. Mmh. Une fois dans les années 70 et ensuite, là, récemment, dans les années 2000.
D'accord. Une fresque donc, qui a été restaurée. C'est vrai que Prosper Mérimée a permis de sauver pas mal de monuments hein, dans la Vienne.
Partout en France.
Partout en France, bien sûr. Mais là, pour ce qui nous concerne pour la Vienne, voilà. Je pense notamment à l'appui hein, avec l'ancienne église, en fait, Fontevrisse, qui, elle, depuis, a disparu. Mais c'est vrai qu'il avait permis de sauvegarder un peu ce bâtiment aussi.
Il a intervenu un peu partout. Hein,
vraiment, ouais, exactement. Un homme qui a fait énormément de choses pour la Vienne et puis pour la France. On va se faire une petite pause musicale tiens, pour avant de revenir sur Saint-Savin et puis de parler un peu du programme de l'abbaye pour l'année 2025. On va s'écouter Louane tiens, qui nous chante « La pluie, il fait beau aujourd'hui, autant en profiter ».
Non, c'est bon.
Il a plu dans la chambre, est-ce que c'était mes larmes ou juste un bout de toi qui part? Je crois que j'ai les mains qui tremblent, je cherche un peu la flamme, est-ce qu'il reste nous quelque part? Mais quand tu me regardes, je baisse un peu la garde. Mais la pluie coule encore, à mesure que nos cœurs se dévorent. Est-ce que tu m'aimes encore?
Nous Nous sommes toujours sur REC 103.7 et les chemins de traverse pour parler de Saint-Savin et de son abbaye classée au patrimoine mondial, en compagnie de Hugues Maillet qui est le maire de Saint-Savin et Jean-Luc Dorchy qui lui est directeur de l'EPCC, l'organisme donc qui gère l'abbaye de Saint-Savin. Beaucoup, beaucoup de choses. Alors on parle de l'abbaye hein, depuis tout à l'heure, mais l'EPCC ne gère pas que l'abbaye. Il y a aussi, on parlait des peintres, je vous posais la question s'agissant des fresques, ça va, c'est d'une commande ou de peinture des moines. Il y a aussi la vallée des fresques.
Donc effectivement, le PCC a pour également mission de valoriser ce territoire qu'on appelle la vallée des fresques. Hein, donc sept sites, en plus de Saint-Savin, répartis en remontant à la Gartempe jusqu'à Montmorillon et Saugé. On peut les citer. Hein, donc l'église de Saint-Germain, juste en face de Saint-Savin. L'église d'Antigny. La petite chapelle funéraire de Jouet, charmant endroit. Ensuite, trois sites à Montmorillon, bon, qui en ce moment, malheureusement, sont fermés. Donc, la crypte Sainte-Catherine dans l'église Notre-Dame, la chapelle Saint-Laurent à côté et l'Octogone. Et enfin, l'église de Saugé, qui, elle, a une particularité en termes de peinture de ne présenter que des décors, voilà, et non pas de figures. Alors, toutes ces églises ont comme point commun d'avoir des peintures murales. Alors, on ne peut pas forcément parler de fresques. D'ailleurs, même à Saint-Savin, en réalité, il n'y a pas tant de fresques que ça. C'est une autre technique. Bon, bah maintenant, c'est devenu un peu un mot générique, fresque. Et vous avez là un échantillonnage extraordinaire, une histoire de la peinture murale. Alors, depuis le 11e à Saint-Savin, avec le 12e, le 13e, le 14e, le 15e siècle, et des églises aussi là, du 19e siècle. C'est-à-dire la façon dont on a revisité et redécouvert le Moyen-Âge au 19e siècle, avec l'église de Saint-Germain, qui a une curiosité, qui est notamment, alors j'ai oublié le nom du peintre qui l'a réalisé au 19e siècle, mais vous avez ce qu'on appelle une grisaille, et qui, quand on entre dans l'église par le porche, c'est un vrai effet de trompe-l'œil, on a l'impression d'avoir une sculpture, et en fait c'est une peinture. Notamment aussi des scènes assez particulières, donc la petite chapelle Sainte-Catherine de d'Antigny et de Jouet, qui sont assez exceptionnelles, avec un atelier assez proche, donc c'est assez début du 15e siècle, hein. Début 16e, je crois. Et donc, je crois que c'est contemporain de Léonard de Vinci, quasiment. D'accord. Et on voit toute la différence encore avec un art français qui reste médiéval, alors que la Renaissance en Italie se développe. Mais c'est très, très touchant parce que vous avez parfois des maladresses, mais qui sont très touchantes. Et puis, il y a cette scène assez extraordinaire qu'on retrouve dans trois chapelles. Alors, une qu'on ne peut pas voir puisqu'elle est dans le château de Boismorin, donc un lieu privé, mais à Antigny et à Jouet, on peut la voir. Se dit des trois morts et des trois vifs et qui nous interroge sur notre condition humaine puisqu'on voit trois chevaliers à la chasse qui rencontrent trois spectres et qui leur disent en gros ce que vous êtes, nous l'avons été, ce que nous sommes, vous le serez. Donc ça nous mène aussi à réfléchir. Et l'année dernière, on avait notamment fait un parcours pour la Toussaint sur la question de la mort. Donc là, il y a une volonté de l'EPCC et de la communauté de communes de développer cette vallée au travers de visites, au travers de spectacles, pourquoi pas, de propositions culturelles, de propositions touristiques. L'enjeu aussi, c'est de raccorder ces lieux justement à la dimension de la randonnée, à la dimension de la randonnée vélo, randonnée bien sûr pédestre, le canoë qui est une évidence on avait fait d'ailleurs pour les journées de patrimoine une descente. Alors bon, les conditions météo n'étaient pas idéales, surtout le dimanche. Mais donc le chargé de mission qui a été prolongé là pour une année donc a vraiment pour mission de mettre en place, de définir des visites thématiques. On pourrait tout à fait imaginer, par exemple, au moment de la Fashion Week, faire tout un ensemble autour des vêtements. Il y a beaucoup à dire sur les vêtements dans toutes ces églises. La journée de la femme, on pourrait faire des visites thématiques sur la représentation des femmes dans tous ces lieux. Mmh. Il y a beaucoup de choses possibles comme ça. Et donc, cette année, après une année de réflexion en 2024, l'enjeu, c'est que le chargé de mission soit sur le terrain et accueille le public, mette en place ces actions, ces visites. Et l'idée, c'est aussi vraiment d'associer culture et nature. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le plaisir de la randonnée, et c'est très riche quand même, la communauté de communes, le territoire est très riche en termes de chemins de randonnée, mais aussi le canoë, comme je disais, les itinéraires vélos, et puis bah voilà, d'accueillir les gens dans le cadre de parcours, de circuits. Donc voilà, voilà tout l'enjeu de mettre en avant vraiment un tourisme qui associe le culturel, le patrimoine et la nature. Donc c'est vraiment un enjeu très fort et on a tous les atouts, je pense, dans ce territoire pour faire ça.
Exactement, avec cette ligne verte aussi, d'ailleurs, qui va de Poitiers au moins jusqu'au Blanc, qui doit continuer après, qui est un moyen de faire venir les touristes.
Oui, là, si on parle de la voie verte, donc il ne faut pas parler, on ne peut pas y échapper, c'est le développement de la véloroute, la V94,
exactement,
qu'on appelle aussi Suisse-Océan, effectivement, parce que la traversée de la France, au départ, ne passait pas par Limoges, les autoroutes ont dévié un peu notre circuit, mais là, c'était bien ça. Et là, donc, le département est investi pour la restauration de cette voie verte, donc de Saint-Savin jusqu'à Ingrandes, donc jusqu'à l'Indre, effectivement.
C'est la limite du département.
Donc, en 2024, en 2025, il fait la deuxième partie, donc il repart de Saint-Savin, Antigny, jusqu'à la limite du Vélorail, entre autres. Et donc, ce parcours-là va être mis en avant pour la fête du vélo, entre guillemets. Donc
qui se déroulera cet été
Mais, au mois de mai, parce que c'est mai en vélo, entre autres.
Exactement, on en reparlera d'ailleurs ici voilà. aussi.
Et donc, le département était très impliqué, la communauté de communes très impliquée, parce que la concentration sera à Valdivienne. Un départ de Saint-Savin, entre autres, en vélo. Organisé, puis un autre de Poitiers, autant que je sache, bon, il y a des réunions d'organisation là, auxquelles je vais participer, avec un impliquant, entre autres, le club de randonnée pédestre et cyclo de Saint-Savin, dont j'étais l'ancien président.
D'accord.
J'ai une sensibilité au vélo, à la randonnée, que vous comprendrez assez facilement.
Beaucoup de choses, beaucoup d'associations d'ailleurs à Saint-Savin. Combien d'associations?
Le nombre exact, je ne me rappelle plus, mais on doit en avoir plus d'une trentaine, effectivement. C'est-à-dire, c'est assez énorme. Alors, dans ces associations, on en a beaucoup sur la culture, effectivement, mais également sur le sport. Mais alors, c'est souvent des associations qui ne sont pas communales, entre guillemets, sont plutôt intercommunales, d'accord, comme toute association, je crois. Hein, les adhérents viennent d'ailleurs. Donc, si je prends par exemple la principale qui est le foot aujourd'hui est géré à 50%, je dirais, entre Saint-Germain et Saint-Savin, même si le stade est bien à Saint-Savin. C'est une gestion commune.
Oui, vous avez aussi l'ADEPA d'ailleurs, qui était plus pesé sec à l'époque, qui est venu vous rejoindre.
Voilà, tout à fait. Donc, je veux dire, on cumule beaucoup. J'ai beaucoup de demandes, enfin, quand je dis beaucoup, non, n'exagérons pas, mais j'ai quelques demandes culturelles aujourd'hui de gens qui ne sont pas du tout dans le territoire et qui viennent s'installer pour mettre le siège à Saint-Savin. Ça concerne souvent des associations musicales, musique ancienne et autres, ou danse, parce que c'est le site de l'Abbé qui les attire.
Exactement, c'est ça. Alors, si je parle de l'ADEPA, ce n'est pas tout à fait par hasard. Hein. C'est que l'ADEPA, en même temps, fait partie de la Fédération anti-éolienne de la Vienne, qui agit énormément. Et c'est vrai que Saint-Savin, de ce côté-là, a pu protéger une partie des communes alentours. On l'oublie, l'Appui, par exemple. Hein. Moi, je suis de l'Appui. On a eu la chance d'avoir Saint-Savin pas très loin pour nous éviter des éoliennes. C'est vrai qu'on est pas mal préservé. C'est une cause qui vous
alors, convient. Ça, c'est assez simple. Enfin, la définition aujourd'hui, c'est simple. D'abord, il faut savoir que dernièrement, donc en 2024, la zone tampon, qu'on appelle, a été validée, effectivement, au niveau mondial, à New Delhi. Hein. C'est-à-dire, on décide de ce qui se passe à Saint-Savin à New Delhi. C'est quand même
c'est
pas mal. Voilà, on est un peu le centre du monde. Cette zone donc, est nettement élargie. Et le principe même, c'est qu'à hauteur d'homme, si l'oblique qui va jusque là-haut du clocher de Saint-Savin, donc c'est, il a été raccourci, c'est dommage que sinon il aurait été encore plus haut. Eh bien, en réalité, s'il y a une éolienne qui est dans cette trajectoire-là, en réalité, ça devient interdit. Et donc, il y a eu déjà des décisions du Conseil d'État hein, jusqu'à 22 km. Effectivement, il y a des gens. Alors, là, encore une fois, c'est à tour d'homme. Donc, selon où vous êtes, ce n'est pas la même distance.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est pas comme avant, les 500 mètres et autres, ça, c'est terminé. Mais effectivement, c'est une protection réelle aujourd'hui pour toutes les communes. Et je dirais, les communes, effectivement, qui sont autour de Saint-Savin, mais toute la vallée de la Gartempe.
Exactement, qui a besoin d'être préservée.
On a aussi préservé, voilà, la communauté de communes s'emploie beaucoup à préserver, et les communes, effectivement, riveraines voudraient aussi préserver. L'État nous demande de classer, d'ailleurs, l'ensemble de cette vallée. C'est une adhésion individuelle de chaque commune, c'est pas forcément évident, parce qu'il y a aussi des contraintes. Hein.
Oui, bah, je veux bien
les,
croire.
Les
oui.
petits jardins qui abritent des roulottes à longueur d'année, ça veut dire que ça deviendrait interdit, hein, parce que c'est pas tout à fait naturel, ça, au point de vue des corps, hein, le long de la Gartempe. Mais je crois qu'on a le milieu naturel dont parlait tout à l'heure Jean-Luc, effectivement, de notre territoire, il se doit d'être tellement naturel qu'il devrait être authentique, c'est-à-dire pas trop déformé, et donc il nous faut le préserver. Et ça, nous, c'est un développement économique à travers le tourisme, je crois qu'il faut viser. Il faut avoir cette ambition-là. On l'a au point de vue de la communauté de communes, bien entendu, la communauté de Savin aussi. Et si je prends pour la lutte contre les éoliennes, oui, je suis un fervent défenseur de la protection de notre abbaye.
Oui,
et,
voilà.
Parce que je crois que c'est essentiel.
Alors après, les éoliennes, on en a quelques-unes dans la Vienne tout de même. Hein, l'idée n'est pas de dire non forcément.
Non, non, puis on dépasse le quota largement, je veux dire, au point de vue communautaire dans le sud de Vienne. Mais effectivement, ce n'est pas être anti-éolien que de vouloir préserver nos ressources.
Exactement, tout à fait. Oui, je suis assez d'accord avec vous sur ce sujet. On fait partie de la même fédération, je pense. On parlait de la Gartempe. On parlait des dégâts aussi tout à l'heure de l'eau. Hein.
Oui,
comment ça se passe au niveau de l'abbaye? Il y a eu des dégâts. Qui est responsable? Qui finance ensuite la réparation?
Donc, c'est la commune.
Le propriétaire.
Donc, voilà. Effectivement, avec des aides, mais on sait bien que même le reste à charge demeure. C'est un des gros problèmes structurel de l'abbaye de Saint-Savin, qui, effectivement, est la propriété de la commune. Hein, et donc, tous travaux sur le bâti doit être engagé par la commune. Nous n'avons même pas le droit d'engager de faire un portail. Enfin, je veux dire, voilà. Nous, on peut intervenir sur l'aménagement scénographique à l'intérieur du bâtiment conventuel. Mm-hmm. Tout ce qui touche pas les murs, en fait, mais tout ce qui touche les murs, ben, c'est la commune. Donc, il y a eu effectivement, lors de l'inondation de Pâques dernier, la crypte principale qui abrite notamment des peintures exceptionnelles de l'histoire des saints qui sont considérés à la fondation Saint-Savin et Saint-Cyprien, donc des saints du 5e siècle qui seraient venus. Alors ne me demandez pas par quel chemin, parce que tout ça c'est ce qu'on appelle la légende.
Oui, voilà.
Sont venus et ont été martyrisés sur les bords de la Gartempe et sont à l'origine de la fondation du site. C'est souvent comme ça que ça se passe. Un établissement monastique repose sur des reliques, hein, sur les... Voilà, elle a été donc inondée à 50 cm à peu près,
l'eau,
40 cm. Voilà, 40 cm. Et donc, elle est en surveillance pour une année. 14 mois, un peu plus. J'ai rencontré récemment la restauratrice en charge de cette surveillance qui m'a dit qu'elle était plutôt optimiste que le dégât... Enfin, en tout cas, ce qu'on craignait, le décollement, notamment des enduits, il n'y avait pas trop de risques de ce côté-là. Il y avait un petit peu, effectivement, des organismes, mais en même temps, c'était assez... pas très important. Donc, c'est plutôt positif.
Il faut savoir que depuis l'âge de l'abbaye, je pense que cette crypte a déjà subi d'autres inondations.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Et
oui.
Que là, pour l'instant, donc, la surveillance, ce qu'on appelle la période d'assèchement, donc 14 mois, effectivement, par des experts, Géraldine de Regret, entre autres, pour la citer...
Frais, pardon.
Ce qu'il faut savoir, oui, effectivement, c'est que la ventilation naturelle dans cette crypte en réalité suffit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'assèchement artificiel, entre guillemets. On n'a pas mis des réchauds. Ce sont des capteurs aujourd'hui qui sont dans les murs, qui font donc des relevés d'informations. Mais le danger n'était pas la peinture elle-même. En réalité, l'eau n'a pas attaqué la peinture directement. En plus, c'était le bas de la crypte, donc les peintures sont plutôt sur le tour du mur et le plafond. Mais par contre, le danger, c'est l'enduit. Si l'enduit tombe, les peintures disparaissent également.
Exactement.
1000 ans de peintures qui disparaissent, ça ferait un petit peu mal au ventre.
Mais c'est vrai que ça, il faut jamais quand même oublier que ça reste, et c'est ce qu'on essaye de dire aussi dans le nouvel aménagement dans le réfectoire, ça reste un lieu fragile. De très nombreuses restaurations. On a encore aujourd'hui un développement dans le porche de l'abbaye, de l'abbatiale, le porche d'entrée où vous avez des magnifiques scènes de l'Apocalypse ainsi que le Christ en majesté. Un voile blanc se développe sur une partie des peintures. Alors on sait que ça n'altère pas les peintures, mais enfin quand même, ça enlève leur qualité, l'université. Donc, il faut absolument qu'on mette en place un protocole de diagnostic pour savoir d'où ça vient, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça n'est jamais fini. Je veux dire, ça reste quand même un lieu fragile. Et nous, ce qu'on essaye de dire aux gens, et c'est aussi pour attirer des mécènes, pour dire eh bien, c'est notre devoir de protéger et de sauvegarder ce lieu, ne serait-ce que pour transmettre aux générations futures son message. Et donc, plus que jamais, aujourd'hui, il faut s'inscrire toujours dans les pas de Mérimée. Voilà.
Tout à fait. C'est vrai que ça vous est tombé dessus, monsieur le maire, on va dire, au niveau de la restauration, tout ce qui est finance. Les fresques ont bientôt 1000 ans. Il faut les restaurer aujourd'hui. Ça tombe sur un budget. Au niveau du budget de la commune, cette abbaye, ça coûte cher.
Alors, oui, enfin, ça coûte cher. Après, moi, ce que je défends, c'est la proportion du trésor que nous possédons et puis donc les dépenses qu'il faut mettre en face.
Je veux dire, par rapport aux 800 habitants, je veux dire, sur le budget.
Si on est aussi un centre, une commune de centralité avec tous nos commerces et tout, c'est parce qu'aussi on a un abbaye, sinon je pense qu'on serait comme les autres, entre guillemets. Par contre, oui, ça coûte, dans la mesure où il y a eu plus de 30 ans de travaux, vous le savez, normalement, le minima, au départ, c'est de fonctionnement, en tout cas, c'est 20% la charge des collectivités. Pour ce qui est des restaurations, c'était plutôt 90, peut-être fois 95, mais sur des sommes très élevé. Et le problème, c'est que lorsque perdu un contrat de plan pour une grande restauration, c'est sur plusieurs années. 3 ans en principe, ou l'équivalent d'un contrat de plan. 3 ans, ça veut dire que les subventionnements qui sont donnés à la commune sont décidés au début du contrat. Il y a des amenants au fur. Donc les 5%, par exemple, de reste d'investissement du départ d'une commune se traduisent souvent par 15 ou 20% au bout de 3 ans. Et par contre, le fonctionnement, lui, le fonctionnement, il dépend principalement d'une subvention de la DRAC, entre guillemets. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup d'interventions qui ne sont pas entièrement subventionnées ou très peu subventionnées. Bon, pour ce qui est de l'assèchement, par exemple, d'une manière extraordinaire et bénéfique, il y a eu l'intervention de nos différents élus, sénateurs, députés et autres. Et là, j'ai été subventionné à 80% effectivement par la DRAC, très rapidement. Et le reste, j'ai sollicité le Énergie Vienne pour sa fondation du patrimoine, qui a mis presque le complément. C'est Énergie Vienne, le groupe Apple Cantat. Et donc, c'est à travers son fonds patrimonial de Sorégie. Donc là, ça a été bien subventionné. Mais le reste, ce n'est pas vrai. Quand j'ai refait l'auditorium, parce qu'on disait, nous sommes propriétaires de la commune. Refaire une moquette auditorium, c'est 12-15 000 euros. Je veux dire, c'est pour notre pomme, entre guillemets. J'ai 7 infiltrations cette année. On a eu des tempêtes, on n'a pas eu l'inondation. On a eu beaucoup de tempêtes, on a eu des dégâts. Il faut savoir que l'abbaye n'est pas assurée. Elle n'est plus assurée. Les groupes d'assurance sont partis tout simplement parce qu'ils nous avaient obligés à faire un diagnostic d'assurance. Et sur le fait qu'ils sont partis, c'est un peu suite, je pense, aussi à l'incendie de La Rochelle, entre autres, qui avait coûté très très cher. Et donc aujourd'hui, les propositions qu'on a, c'est celles pour des châteaux hôtes. Ce n'est pas accessible pour la commune. C'est un peu n'importe quoi, j'allais dire. Et c'est remonté jusqu'au ministère plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je veux dire, j'ai rien. Et ce qu'on me dit en off, c'est si ça arrive, on saura faire. C'est très rassurant.
On peut espérer, comme l'abbaye de l'église d'Autonome à Paris, hein, peut-être des subventions, les fonds américains qui viendront à ce moment-là.
Mais plus sérieusement, c'est qu'aujourd'hui, la solution, et c'est pour ça qu'il faut faire un vrai travail avec les financements privés et mobiliser du mécénat, qui permettra notamment d'alléger aussi les coûts pour la commune sur des gros travaux. Aujourd'hui, moi, je vais faire chiffrer. Après, il faudrait changer le système de chauffage du bâtiment conventuel. C'est quand même un immense bâtiment. Et il faudrait changer toutes les fenêtres. Fenêtres sur mesure, MH, voilà. Donc, ça peut être un travail sur 10 ans. Mais je veux dire, aujourd'hui, il faut vraiment faire prendre conscience à des fondations, à des entreprises qui peuvent associer leur nom aux valeurs de cette abbaye, de ce lieu millénaire, qu'il faut se mobiliser et contribuer à cette sauvegarde.
Non. Il y a une autre question aussi, alors qu'on s'est posée avec des élus, mais dont je n'arrive pas à résoudre effectivement la question, c'est est-ce qu'on est au bon niveau de responsabilité pour ce qui est des bâtiments dont la commune a la charge aujourd'hui. Je rappelle que l'UNESCO, c'est l'État qui répond pour cette transmission de ce bien reconnu. Or, aujourd'hui, j'allais dire, si je fais un raccourci, je travaille en sous-traitance pour l'État. Or, une commune de 8000 habitants, est-ce que c'est le bon niveau de responsabilité pour assumer effectivement cette charge?
Oui, quand on regarde notamment Ville-Salem, c'est un bien de l'État, je crois.
C'est souvent ou les régions ou l'État. C'est souvent. Effectivement, moi, aujourd'hui, on a sollicité une réunion, entre autres, pour faire une table ronde entre les différents élus, sénateurs, députés, et entre autres, les directions l'action culturelle de la Nouvelle-Aquitaine. J'ai du mal à organiser cette réunion. On me répond favorablement, on ne me donne pas suite, quoi. Grosso modo, je le dis comme c'est le cas aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est dommage, que je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener, en sachant que l'Église, on peut peut-être pas la passer à quelqu'un d'autre, dans la mesure où je crois que la loi des 1905 nous oblige à un lieu de culte, ah oui, que ce soit la commune qui soit propriétaire. Mm-hmm. Et j'allais dire, c'est ici que nous avons nos peintures principales. Mm-hmm. Mais quand même, je crois qu'il y a vraiment une réflexion de fond, parce qu'aujourd'hui, on est seul, la commune, à assurer effectivement cette charge.
C'est ça.
Et ça me semble être une charge difficile à assumer aujourd'hui.
Et c'est vraiment un cas tout à fait isolé. Hein. Les sites, il n'y a pas de site UNESCO qui soit propriété d'une commune. Hein. En général, c'est... Oui. Arques-et-Senans, par exemple, Salon-Royal, c'est le département, Fontevraud. Alors, Fontevraud, ce n'est pas un site UNESCO en soi, c'est dans le cadre de la Loire, mais ce sont des lieux qui sont la propriété de, soit de la région, soit du département, soit de l'État. Et c'est vraiment une exception d'avoir un site aussi important. Et ça restreint un peu son développement, il faut dire la chose comme elle. Sont.
Exactement. On va faire une dernière pause musicale. Hein. Il est 53, il ne nous reste plus que 7 minutes d'émission. Je suis quand même obligé de vous faire une pause musicale. On va s'écouter, c'est Beyoncé hein, qui chantait il y a quelques temps, hein, Texas Hold'em.
Si, c'est Beyoncé.
This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado,
tornado
in my city.
In
the basement.
That
shit ain't pretty.
Rugged whiskey.
We're surviving.
A
breakup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice.
This ain't Texas, ain't no hold'em.
Hey.
So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up.
Hey.
Stick around, round, 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 round,
round.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
And I'll be
now.
Damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh.
Oops, spurs, oops.
To the flow now, ooh.
Top, back, oops. Shoot.
Come take it to the flow now, ooh.
And I'll be damned if I cannot dance with you, baby.
pour that sugar and liquor on me too.
Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot.
Nous sommes toujours sur AOC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie d'Hugues Maillet, qui est le maire de Saint-Savin, et Jean-Luc Dorchy, le directeur de l'EPCC. Pour vraiment la dernière partie, il nous reste en fait une minute et demie pour terminer cette émission. On parlait du Triangle d'Or tout à l'heure, des choses à venir, des réunions, vous me disiez, hein, avec des espoirs de développement touristique de ce côté-là.
Oui, oui, c'est un chantier qu'on a démarré avec des volontés de part et d'autre. Absolument.
Bon, et également la communauté de communes, je peux rajouter, hein, qu'à cette volonté aujourd'hui de, bah, justement de sortir de frontières, parce que le tourisme, ce n'est pas, ça ne s'arrête pas à une frontière de Grand Poitiers, Grand Châtellerault, de l'Inde. On est aussi dépassé la région, et je crois qu'il faut penser à ça également.
On a rencontré le parc naturel de la Brenne,
oui,
aussi.
Hein, parce que c'est quand on aura une émission prochainement d'ailleurs dessus.
Ouais. Quand même.
Ouais, exactement. Ouais. Au niveau de Grand Poitiers, c'est peut-être un peu plus difficile, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a un dynamisme, en tout cas au niveau de Montmorillon et de la communauté commune de Vienne-Gartempe. Moi qui suis de l'appui, on arrive quelquefois à regretter de ne pas vous avoir rejoint à l'époque. C'est un autre débat. Mais c'est vrai qu'au niveau touristique, il y a pas mal de choses qui sont faites, hein, on peut le dire.
D'abord, on a un office de tourisme aujourd'hui avec son directeur, effectivement, qui est très très actif, effectivement. Donc j'en profite pour les remercier aujourd'hui, dont je suis le vice-président. Mm-hmm. Mais oui, aujourd'hui, il y a l'accent qui est mis, entre autres, parce que là, l'émission, vous parlez randonnée. Oui. Randonnée à vélo, randonnée à pied, je crois que là, on a un avenir à développer. On a la chance d'avoir ce paysage extraordinaire, et donc maintenant il faut le structurer, le mettre en commercialisation également. On a des circuits très vastes, hein, en vélo, entre
exactement,
autres,
hein,
avec des applicatifs déjà, donc on a déjà des accès, mais ça il faut le développer puis il faut faire des choix, parce que malheureusement on ne peut pas valoriser tous les circuits. Donc il faut les choisir, ceux qui sont les plus intéressants, et peut-être aussi qui servent pour la vie pratique de tous les jours. Il y a des axes, effectivement, peut-être pas à Saint-Savin, mais il y a d'autres communes où, effectivement, on a besoin de cet accès à vélo, même pour aller travailler.
Exactement. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Il va être l'heure de nous quitter. Merci d'être venu.
Merci à vous.
On vous verra peut-être prochainement. Je vous réinviterai.
Merci, aucun problème.
Merci.
Ça sera avec plaisir.
Bonne semaine à toutes et tous. Au revoir.
Merci.
Les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins traversent sur REC 103.7, animé par Francis.